Voix Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui. Bienvenue dans cette édition du mardi 24 janvier 2023. Avec vous, Eric Manila-Kizer. Voici d'abord le sommaire. Au Burkina, le gouvernement demande le retrait des troupes françaises. Paris veut des clarifications. En RDC, au moins 23 civils tués dans une nouvelle attaque des ADF dans l'Est. Au Cameroun, après l'assassinat d'un journaliste, colère et peur chez ses pairs. Ici aux États-Unis, la Californie frappée par deux tueries en 48 heures. Assaut du Capitole en janvier 2021, des membres de la milice Of Keepers reconnu coupable de sédition. En Ukraine, la Pologne prête à livrer des chars sans l'aval de Berlin. La Russie annonce de petites avancées. Les nouveaux venus de Madagascar en quart de finale du CHAN Algérie 2023. Vous aurez plus de détails dans les sports de Yacouba Ouédraogo, mais d'abord le journal. Dans l'est de la RDC, la République démocratique du Congo, au moins 23 villageois ont été tués dans la nuit de dimanche à lundi lors d'une attaque attribuée aux rebelles ADF et revendiquée par le groupe État islamique. Eddy Issango.
Le groupe État islamique qui présente les ADF comme sa branche en Afrique centrale a publié sur Telegram hier un communiqué indiquant que ses membres ont attaqué le village à Makougoué en territoire de Beni au Nord Kivu. 24 personnes dont 10 femmes ont été tuées dans cette incursion des ADF, avait dit auparavant Roger Wangeve, président de la société civile locale. Selon lui, 17 personnes qui prenaient de la bière dans une buvette ont été toutes exécutées, ajoutant au moins 7 maisons incendiées, 3 pharmacies et 11 boutiques pillées et plusieurs civils toujours portés disparus. Les 15 janvier, au moins 14 personnes ont été tuées et 63 autres blessées dans un attentat à la bombe dans une église pentecôtiste. Cette attaque a été aussi revendiquée par les groupes État islamique. Les ADF, rebelles musulmans ougandais à l'origine, sont considérés comme l'un des groupes armés les plus meurtriers dans l'est de la RDC. Pourtant, depuis mai 2021, le Nord Kivu et l'Ituri sont placés en état de siège. Aussi, une opération militaire conjointe congolaise-ougandaise s'est poursuivie dans la région, mais les attaques meurtrières continuent.
Le porte-parole du gouvernement du Burkina Faso a confirmé ce lundi que Ouagadougou avait demandé le départ des troupes françaises basées dans le pays dans un délai d'un mois. Mais Paris a répondu attendre des clarifications de la part du président de transition Ibrahim Traoré. Ce que nous dénonçons, c'est l'accord qui permet aux forces françaises d'être présentes au Burkina Faso. Il ne s'agit pas de la fin des relations diplomatiques entre le Burkina et la France, a déclaré hier midi le porte-parole du gouvernement burkinabé Jean-Emmanuel Ouédraogo dans une interview sur la radio-télévision du Burkina. Les forces françaises sont basées à Ouagadougou sur la demande du Burkina Faso et de ses autorités. Cette dénonciation est dans l'ordre normal des choses. Elle est prévue dans les termes de l'accord militaire, a-t-il poursuivi, indiquant que la procédure laissait un mois à l'autre partie pour accéder à cette requête. Le Burkina héberge actuellement un contingent de près de 400 forces spéciales françaises, la force Sabre. Au Cameroun, le monde des médias a resté sous le choc deux jours après que le corps du journaliste Martinez Zogo a été retrouvé sans vie dans la périphérie de Yaoundé. Mohamedou Onfa.
Lundi, ses confrères et consoeurs sont venus déposer fleurs et bougies au siège de sa radio privée Amplitude FM à Yaoundé, où il animait quotidiennement une émission dénonçant l'affairisme et la corruption au Cameroun. Il est allé à la gendarmerie, il a crié, mais personne n'a rien fait, a déclaré Chantal Roger Tuilé, directeur du journal La Tribune de l'Est. C'est le règne de la terreur, on a l'impression que si un journaliste parle, il va mourir, a abondé son confrère, Prince Ngimous. À Douala, la capitale économique, plusieurs organisations de la société civile se sont rassemblées pour une conférence de presse au siège du REDAC, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. Nous appelons le peuple à se mobiliser face à cette terreur étatique instaurée au Cameroun pour exiger un état de droit, a dit Philippe Nanga, représentant de l'ONG Un Monde à Venir. Les commanditaires et exécutants sont connus, a dit Maximilienne Gombe, militante emblématique des droits humains et présidente du REDAC. Le gouvernement, qui d'ordinaire ne communique jamais avant plusieurs jours, s'est fendu d'un inhabituel communiqué le jour même de la découverte macabre. Des enquêtes sont ouvertes pour retrouver et traduire devant la justice les auteurs de ce crime odieux, dit le communiqué, qui ajoute « Le Cameroun est un état de droit où les libertés sont garanties, y compris la liberté de la presse ».
En Afrique du Sud, des dizaines de milliers de poulets ont été étouffés à cause d'une ventilation coupée. La crise de l'électricité menace la production de nourriture, alerte la filière agricole. L'accès à la nourriture va devenir un problème, surtout pour les ménages modestes. Mise en garde Kulani Siwuya, économiste pour Agrissa. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
La semaine dernière, au moins 40 000 poulets sont morts dans une exploitation à plus de 200 km à l'ouest de Johannesburg, d'après Herman Duprez, éleveur. Selon lui, les volailles en élevage intensif sous d'immenses hangars ont succombé au manque d'air à cause d'un système de ventilation à l'arrêt à cause des perturbations en fourniture d'électricité. Le géant du fast-food spécialisé dans le poulet frit KFC a annoncé le mois dernier fermer temporairement 70 restaurants dans le pays. Les délestages ont entraîné des perturbations dans près de 7% de nos restaurants, a précisé la chaîne dans un communiqué. L'Afrique du Sud est en proie à des coupures d'électricité qui se sont aggravées depuis l'année dernière et pouvant aller jusqu'à plus de 11 heures par jour. L'entreprise publique Eskom, très endettée, est incapable de produire suffisamment de courant pour la population de 60 millions. Le président Cyril Ramaphosa a évoqué hier lundi une crise de l'électricité qui fait des ravages, mais ne pourra pas être résolue en une nuit.
Trois militaires algériens ont été tués ce lundi dans le crash de leur hélicoptère lors d'une mission d'entraînement à 200 km au sud-ouest d'Alger, a indiqué le ministère de la Défense.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En France, le gouvernement a adopté hier en Conseil des ministres sa réforme controversée des retraites. Le président Emmanuel Macron veut aller jusqu'au bout sans rien céder sur les principales revendications des syndicats qui entendent amplifier leur mobilisation contre ce projet. Rosine Monenze. Nathalie Barge.
À l'issue du Conseil, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a fermé la porte à tout recul sur le report de l'âge légal de la retraite à 64 ans. Revenir sur ce point serait renoncer au retour à l'équilibre du système, a-t-il déclaré. Après une première journée de grève et manifestations qui ont réuni jeudi entre 1 et 2 millions de personnes dans les rues, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, espère faire encore plus fort le 31 janvier. Les syndicats de l'énergie ont prévenu lundi qu'ils ne s'interdiraient aucune méthode de la gratuité pour certains clients à de nouvelles baisses de production. À Marseille, dans le sud, les syndicats entendent réduire la facture de commerçants dont les notes d'électricité sont montées en flèche. Des centaines de boulangers ont manifesté hier à Paris pour dire qu'ils sont menacés par la flambée des coûts de l'électricité et des matières premières. La France est l'un des pays européens où l'âge de la retraite est le plus bas, sans que les systèmes de retraite soient comparables. C'est 65 ans en Allemagne, Belgique ou Espagne et 67 ans au Danemark.
La Pologne a prévenu ce lundi qu'elle était prête à se passer de l'aval de Berlin, indécis sur la question, pour livrer des chars Léopard de fabrication allemande à l'Ukraine, où les forces russes continuent de revendiquer de petites avancées sur le terrain. Dans ce contexte, l'Union européenne a annoncé qu'elle accordait 500 millions d'euros supplémentaires pour fournir des armements à Kiev et allouer 45 millions d'euros pour la formation des militaires ukrainiens sur le territoire de l'Union européenne. Signe des tensions croissantes avec Moscou, deux des trois pays baltes, l'Estonie et la Lettonie, ont chacune annoncé dans la journée leur décision d'expulser l'ambassadeur de Russie sur leur sol, emboîtant le pas à la Lituanie qui avait fait de même l'année dernière. Alors que les enquêteurs ont continué d'essayer de percer le mystère entourant le meurtre d'11 personnes dans un dancing de Californie ce week-end ici aux États-Unis, Une double fusillade a éclaté ce lundi dans des exploitations agricoles de cet État de l'Ouest et des États-Unis, prenant la vie de sept autres victimes. Un individu suspecté d'avoir perpétré ces deux nouvelles attaques dans deux fermes près de San Francisco a été placé en détention, ont annoncé les autorités. Le président Joe Biden a exprimé son émoi et ordonné la mise en berne des drapeaux fédéraux. Quatre membres de la milice d'extrême droite Of Keepers ont été reconnus coupables. Ce lundi de sédition pour leur rôle dans l'assaut du Capitole à l'issue du second procès organisé sur ce chef d'accusation extrêmement rare. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, pressenti pour être candidat à la présidentielle de 2024, a défendu ce lundi son interdiction d'enseigner un cours sur l'histoire africain-américaine dans son État, une décision très critiquée par les associations de droits civiques. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco présentée par Mohamedou Oumfa.
Le Cameroun va rendre opérationnelle la caisse de dépôt et de consignation créée il y a 15 ans. Le président camerounais a nommé les premiers responsables de la structure par décret le 20 janvier. La principale mission de cette caisse est de collecter, sécuriser et rentabiliser sur le long terme les ressources généralement oisives pour les orienter vers l'accompagnement des politiques publiques. Ces ressources proviennent entre autres de l'épargne réglementée, des consignations administratives et des cautionnements, des fonds de retraite et d'assurance et de garantie. Les réserves de change utilisables du Kenya, première économie de l'Afrique de l'Est, se sont établies à 7 382 milliards de dollars, selon les données au 19 janvier 2023, communiquées par la Banque centrale et relayées par Financial Afrique, ce qui représente environ 4 mois de couverture des importations à cette date. À ce niveau, les réserves de change du pays poursuivent leur chute entamée depuis plusieurs mois. La chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, a convenu de renforcer la coopération dans le domaine des hydrocarbures avec l'Algérie lors d'un entretien lundi avec le président Abdelmadjid Tebboune. Monsieur Tebboune a précisé qu'un accord avait été signé pour l'étude et la réalisation d'un gazoduc qui transportera à la fois le gaz, l'hydrogène, l'ammoniac et même de l'électricité.
Et sans transition, nous passons à votre page d'espoir avec Yacouba Ouédraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Les nouveaux venus de Madagascar en quart de finale du CHAN Algérie 2023.
Oui, Madagascar s'est qualifié pour les quarts en battant le Soudan 3-0. Avec 2 victoires, les Malgaches prennent la tête du groupe C. Ils vont donc affronter le Mozambique en quart de finale samedi. Le Ghana a terminé 8e et fera face en quart au vainqueur du match entre le Cameroun et le Niger dans le groupe E, qui se joue ce soir. Bien avant, le duel ouest-africain opposera le Mali à la Mauritanie.
Cyclisme, la 2e étape de la Tropicale Amissa Bongo se court ce mardi.
Cet acte 2 amènera le peloton d'Oyem à Mitzic, 108 km. Hier, la première étape courue entre Bitam et Oyem, longue de 122,5 km, avec un circuit fermé à l'entrée de la ville d'Oyem, a été enlevée par le Français Geoffroy Soupe, qui devient du coup le premier maillot jaune de cette édition 2023 de la Tropicale Amissa Bongo.
Je crois que je suis dans la bonne équipe. Total me donne beaucoup de confiance et je crois que ça fait énormément de bien et ça pousse de se sentir dans un collectif et suivi. Quoi.
Geoffroy Soupe, vainqueur de la première étape de la Tropicale Amissa Bongo. Après une pause de 2 ans en raison de la pandémie de Covid-19, cette 16e édition de la course cycliste gabonaise va se courir sur 903,2 km au total, divisée en 7 étapes et réunit des équipes cyclistes professionnelles et des équipes nationales africaines. Une aubaine pour les cyclistes africains qui manquent souvent de compétition. Bernard Hinold, parrain de la Tropicale Amissa Bongo.
Je pense que ce qui leur manque, c'est la compétition. Ils n'ont pas cette chance, il y a très peu de compétition en Afrique. Et comme ils ne sont pas les plus performants, on ne les invite pas en Europe.
Bernard Hinold, parrain de la Tropicale Amissa Bongo.
C'était les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. De retour avec vous, Eric Manirakidza, place au dossier du jour. Les quelques 300 militaires français stationnés à Kamboisin, au nord-est de Ouagadougou, ont un mois pour quitter le pays. Le Burkina a dénoncé l'accord militaire qui permet ce stationnement des forces françaises. Cette dénonciation, selon le porte-parole du gouvernement intervenant à la télévision nationale, est-ce dans l'ordre normal des choses? Lamine Traoré pour les détails.
Les quelques 300 militaires français stationnés à Kamboisin, au nord-est de Ouagadougou, ont un mois pour quitter le pays. Le Burkina a dénoncé l'accord militaire qui permet ce stationnement des forces françaises. Cette dénonciation, selon le porte-parole du gouvernement, intervenant à la télévision nationale, est dans l'ordre normal des choses. Jean-Emmanuel Ouédraogo, porte-parole du gouvernement.
Prévu dans les termes de l'accord militaire qui permet bien sûr le déploiement des forces françaises ici au Burkina Faso. Donc l'article 16 en l'occurrence donc en tout cas prévoit la dénonciation, une dénonciation qui est une sorte de préavis qui laisse donc un mois à l'autre partie bien sûr pour accéder à cette requête.
Sauf qu'à Ouagadougou, ce départ des militaires français de l'opération dénommée Sabre est diversement apprécié. Évariste Consimbo, analyste politique.
Les Africains aiment bien changer tout. Mais quand vous changez, il faut avoir un autre dispositif. Déjà la question, quel est le dispositif donc qui a été donc prévu pour donc parer donc à toute éventualité avec ce départ-là? Est-ce que cette dénonciation est légale et respecte les formes? Parce qu'à mon avis, cet acte relève donc d'un accord. Et comme tout accord, il y a dû avoir l'aval de l'Assemblée.
Serge Bayala, acteur de la société civile, militant panafricain.
Nous avons fait une action pour inviter l'armée française à quitter les territoires du Sahel parce que sa présence se justifiait moins, parce qu'il y avait une montée en puissance des groupes terroristes, alors qu'ils étaient censés contribuer à baisser la capacité de nuisance de ces groupes-là. S'il y a d'autres qui n'ont pas encore compris qu'ils doivent défendre leur présence avec humilité, en abandonnant l'orgueil colonial, pour se mettre à hauteur de dignité égale, pour discuter avec leurs partenaires africains, eh bien, ceux qui le comprennent mieux et qui comprennent les revendications psychologiques, les revendications d'aspiration à la souveraineté, ils prendront la place de ceux qui ne l'ont pas compris. Et c'est ce qui se passe.
Le président Macron, qui a réagi dimanche, a demandé au capitaine Traoré plus de clarifications. Nous ne voyons pas comment faire plus clair que cela, a réagi toujours ce lundi Jean-Emmanuel Ouédraogo, le porte-parole du gouvernement. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Cameroun, le corps d'un célèbre animateur de radio a été retrouvé dimanche en état de décomposition avancée sur un terrain vague en banlieue de la ville de Yaoundé. Martinez Zogo, chef de station d'une radio urbaine dans la capitale, a animé pendant plusieurs années une émission de grande audience dénommée Embouteillage, dans laquelle il a dénoncé quelques jours avant sa mort des détournements de fonds présumés au Cameroun. Sa disparition a été signalée le 17 janvier dernier. Ce jour à Yaoundé, sa mémoire est saluée par plusieurs, comme vous allez l'entendre dans cette correspondance d'Emmanuel Jules-Ntap.
Une chapelle ardente en la mémoire de l'animateur radio Martinez Zogo. Des hommes de médias, des proches du disparu et autres anonymes se succèdent dans l'enceinte de la radio Amplitude FM où il a officié ces dernières années. Aman Mana est président de la Fédération des éditeurs de presse du Cameroun.
Il y a un sentiment de honte. Quand chez nous, nous sommes confus. Mais je voudrais que nous gardions tous la raison encore. Parce que ceux qui l'ont fait sont des sous-humains.
Quelques jours avant sa disparition, Martinez Zogo a dénoncé le détournement présumé de fonds à hauteur de plusieurs milliards de francs CFA impliquant des membres du gouvernement et leurs proches. Non. Le syndicat national des journalistes du Cameroun s'engage à poursuivre sa mission. Écoutons son secrétaire à la communication, Samuel Mondiok.
Le syndicat national des journalistes du Cameroun sera toujours là pour dénoncer ce crime odieux, pour dénoncer cette situation d'atteinte grave à la liberté de la presse, attenté à la vie d'un journaliste. Je crois que c'est extrêmement grave.
Cet assassinat interpelle toute la corporation, estime le journaliste Jean-Bruno Tagne.
À travers la barbarie de l'assassinat de Martinez Zogo, c'est un message de peur que l'on veut instiller au milieu des journalistes et dans les milieux de tous ceux qui ont décidé de ne pas se taire face à la forfaiture que l'on observe dans ce pays.
Ce lundi, le gouvernement condamne dans un communiqué l'attaque dirigée contre un homme de médias. Il révèle que le corps de l'animateur Martinez Zogo a visiblement subi d'importants sévices corporels. Charlie Aimé Tchomo, rédacteur en chef d'Amplitude FM, ne cache pas sa colère.
C'était horrible, c'était terrible. Surtout quand on a vu son corps. Tout sauf ça. Pourquoi ? Il était nu, comme ses parents l'ont mis au monde. Et au-delà de tout, le corps avait déjà gonflé. Dégagé de ce corps une odeur très nauséabonde.
Plus d'un millier de personnes prévoient une marche de protestation en direction du palais présidentiel le jeudi 26 janvier à l'initiative de Roger Chantal Tulé, un ancien journaliste converti à la politique.
Ce qui s'est passé là, la langue coupée, ça veut dire taisez-vous, celui qui parlera sera mort. Désormais votre profession n'existe plus. C'est pour ça que nous allons au palais de l'unité dire au président Biya, reçois-nous. Tu as dit que tu seras retenu par l'histoire comme l'homme qui a porté la prospérité et la démocratie. On ne peut plus parler.
La radio Amplitude FM a déposé 2 plaintes contre inconnu après la découverte macabre de son chef de station, Emmanuel Junta, pour VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
La ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, a annoncé un processus de paix visant à résoudre la crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Elle a ajouté que le Canada a accepté de jouer un rôle de facilitateur dans ce processus. Le communiqué indique que les parties à cet accord sont la République du Cameroun, le Conseil de gouvernement de l'Ambazonie et les forces de défense de l'Ambazonie, le Mouvement populaire de libération de l'Afrique et les forces de défense du Sud-Cameroun, le gouvernement intérimaire ainsi que l'équipe de coalition de l'Ambazonie. Madame Joly fait état de plus de 6 000 personnes tuées depuis le début du conflit en 2017 et près de 800 000 déplacés. Yacouba Ouédraogo, adjoint à Yaoundé, Joshua aussi, premier vice-président du SDF, Social Democratic Front.
Nous ne pouvons qu'être contents et saluer cette annonce qui va contribuer certainement, si ça progresse, au retour de la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et nous pensons que c'est une très bonne chose. Et donc nous sommes du côté de toutes les mesures, toutes les tentatives qui sont menées pour un retour à la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest.
Avant le Canada, il y a eu la Suisse qui a tenté une médiation. Il y a eu le dialogue national. Qu'est-ce que ça va changer, le fait que ce soit le Canada?
Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose qui change à part le contexte. Le grand dialogue national était nécessaire, c'était un pas dans la bonne direction et il y a eu beaucoup d'avancées grâce à ce grand dialogue national. Et le grand dialogue national était, comme son nom l'indique, une discussion nationale, pas uniquement focalisée sur la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Bien sûr, 80% de ce qu'on a fait était là-dessus. Je pense qu'on a des nouvelles lois. On a une loi sur le bilinguisme qui existe aujourd'hui, qui n'existait pas avant le grand dialogue. On a le statut spécial qui existe, qui n'existait pas avant. On a beaucoup d'avancées qui sont arrivées grâce à ce grand dialogue. Et je pense que les Suisses ont aussi beaucoup fait et surtout les Suisses ont pu identifier qui est qui dans cette crise. Les avancées qu'ils ont pu apporter, surtout qui sont encore en discussion avec le gouvernement de la République jusqu'à aujourd'hui, sont pas des petites avancées. Aujourd'hui, le Canada emboîte le pas et c'est un pas de plus dans la bonne direction.
La question qu'on se pose justement, c'est qu'est-ce que les séparatistes, hein, vont amener à la table des négociations, si négociations il y a.
Je souhaite qu'ils commencent à comprendre raison et qu'ils commencent à comprendre que ce n'est pas par la violence qu'on peut régler ces problèmes. Et je pense que dès le départ de cette crise, notre parti a toujours dit que pour régler quelques problèmes que ce soit dans notre pays, le lieu indiqué, c'était la table de négociation et pas de prendre des armes et d'envoyer des jeunes au front de guerre se faire tuer de la façon dont c'est arrivé. On ne peut pas corriger ce qui est arrivé, c'est arrivé. On doit malheureusement vivre avec toutes nos vies, mais on peut au moins espérer que après 6 années de quasi-guerre, que les uns et les autres commencent à comprendre raison et quand les discussions arriveront, qu'ils arrivent avec des meilleures prédispositions que celles qu'ils ont eues ou qu'elles ont eues, qui étaient mises en question lors des discussions du Grand Dialogue et lors des discussions avec les Suisses.
Joshua aussi, premier vice-président du SDF.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en RDC, à Lubumbashi évidemment sur le 102.8 FM.
Ici aux États-Unis, un nouveau sondage indique que 64% des Américains estiment que la gestion des documents classifiés par le président Joe Biden est inappropriée. Les résultats du sondage ABC Ipsos sont publiés alors que de nouveaux documents confidentiels ont été découverts dans la résidence de Joe Biden. Veronica Balederas Iglesias de la VOA donne les détails. Le récit avec Lionel Lunanila Gahima.
Une série de notes et 6 documents supplémentaires portant des marques classifiées, voilà ce que le FBI a trouvé après la perquisition effectuée vendredi au domicile du président Joe Biden dans le Delaware, avec l'accord du dirigeant américain. Certains papiers remontent à l'époque où Biden était sénateur. Il pourrait s'agir d'une erreur de classement, a déclaré le sénateur démocrate du Delaware, Chris Coons, à l'émission This Week sur ABC.
Au fur et à mesure que les affaires que vous traitez sont plus importantes et parfois plus classifiées, le volume augmente. Donc je pense que c'est par inadvertance. Je ne pense pas non plus que ce soit un problème qui empêche les Américains de dormir la nuit.
Un nouveau sondage ABC News Ipsos réalisé avant la révélation de la dernière perquisition du FBI montre que 64% des Américains estiment que le président Biden a agi de manière inappropriée avec ses documents classifiés. 77% de personnes interrogées considèrent que la manipulation par l'ancien président Donald Trump de documents classifiés qu'il a conservés dans sa maison de Floride après avoir quitté la Maison Blanche est encore plus grave. Les deux dirigeants font l'objet d'une enquête menée par les procureurs spéciaux nommés par le ministère de la Justice. La veille de la perquisition du FBI, le président Biden a réaffirmé qu'il coopérait pleinement avec les autorités concernées.
Je pense que vous allez découvrir qu'il n'y a rien là. Je suis ce que les avocats m'ont dit qu'il fallait que je fasse.
Le représentant républicain Michael McCaul a déclaré à ABC que l'ampleur des éventuelles retombées politiques dépendra de plusieurs facteurs.
Le Watergate a commencé comme un tout petit cambriolage. Il a conduit à la démission d'un président des États-Unis. Je ne sais pas ce qu'il y a là-dessous jusqu'à ce que nous voyons les documents. S'il y a des documents de sécurité nationale liés à des adversaires de nations étrangères.
Pourquoi l'actuel et l'ancien président ont gardé en leur possession des documents classés secrets plutôt que de les acheminer aux archives nationales? C'est une question que les procureurs indépendants devront creuser. Voici ce que le sénateur démocrate Joe Manchin a déclaré à l'émission Meet the Press de NBC.
Aviez-vous l'intention de nuire à quelqu'un? Aviez-vous l'intention de faire une chose fondamentalement irresponsable? Je ne pense pas qu'aucun d'entre eux l'ait fait, je l'espère, mais ils ont été irresponsables.
Il a insisté sur le fait que le peuple américain veut des comptes et qu'il aurait dû y avoir des meilleurs freins et contrepoids.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la réalisation de cette édition. Fatouma Alimas Kalala a également assuré la mise en onde. Merci également à toute l'équipe de rédaction. Eric Manilakiza à la présentation. Ici va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24 heures sur 24 sur votre site internet voafrique.com. Sans oublier vos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. Et bien sûr, je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes. À la prochaine.